Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Des milliers de chasseurs dans les rues aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Une mobilisation en nombre pour la défense des chasses traditionnelles d'oiseaux. À Amiens, les chasseurs ont reçu le soutien de Xavier Bertrand. Mobilisation historique et marée orange dans les Landes. Nous serons à Mont-de-Marsan dans un instant. La crise des sous-marins et la colère froide de la France. Paris rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Jean-Pierre Thébault, ambassadeur de France à Canberra, dénonce une faute du gouvernement australien. Dans ce journal également, la mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, la question de ses obsèques embarrasse le pouvoir algérien, la journée du patrimoine, 38e édition, menu copieux cette année après une édition 2020 réduite, et nous irons à Lens qui reçoit Lille pour la 6e journée de Ligue 1 de football, pelouse envahie par les supporters de Lens et échauffourée avec les CRS. Le temps pour demain, de la pluie sur une grande partie de la journée sur le centre et l'est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Défiler sur des échasses pour défendre la chasse. Nous sommes dans les Landes à Mont-de-Marsan, qui a connu aujourd'hui une mobilisation historique de chasseurs. Plus de 16 000 personnes selon la préfecture, plus de 20 000 selon les organisateurs ont défilé dans les rues de la ville pour défendre la ruralité, mais surtout les chasses traditionnelles d'oiseaux comme la chasse à l'alouette, des chasses jugées illégales par le Conseil d'État. À Mont-de-Marsan aujourd'hui, de nombreux manifestants craignent que d'autres chasses soient à l'avenir interdites et ils entendent défendre toutes les traditions. Reportage Renaud Biondi-Mogé, France Bleu Gascogne.
C'est une marée orange qui a défilé dans les rues de Mont-de-Marsan. De nombreux chasseurs avec leurs chasubles pour défendre un art de vivre.
On est en Gascogne et je crois que les Gascons, leur tradition, il ne faut pas surtout leur enlever parce que ils pourraient se mettre en colère, voilà.
Colère, ras-le-bol, les mots du jour. Nombreux ont le sentiment d'être persécutés.
Parce que ça fait trop longtemps qu'on nous tape dessus. Donc petit à petit, la fièvre monte. Et on voudrait continuer à pouvoir chasser, faire un peu ce qu'on veut, tranquillement, sans embêter personne.
Une manifestation sous une pluie battante qui n'a pas démoralisé la foule.
De toute façon, on aurait quand même été sous la pluie parce qu'aujourd'hui on aurait chassé. Alors qu'on soit à la chasse ou ici, autant on va défendre nos valeurs. Comme je le dis sur mon écriteau, la chasse c'est un patrimoine immatériel de la culture française. Il faut la défendre, cette culture.
Dans le cortège, des chasseuses aussi.
J'ai passé le permis en 2001.
Habitante des Landes, elle craint de ne plus pouvoir un jour exercer sa passion.
On nous supprimait tout, tout petit à petit. Et on est toujours en train de vouloir nous supprimer tout ce que nous ont transmis nos ancêtres, quoi, enfin nos parents. On perd notre identité, en fait.
Il faudra d'autres combats ce samedi. C'était juste un début, ont promis de nombreux participants.
Une mobilisation également très politique pour une pratique considérée comme un sujet très sensible. Des milliers de personnes ont également manifesté à Amiens où Xavier Bertrand était présent au début de la manifestation. Le candidat à l'élection présidentielle à droite a écrit sur Twitter « Il y a une chasse qui devrait être interdite, c'est la chasse aux chasseurs ». Et puis pour le 10e samedi consécutif, plusieurs manifestations contre le pass sanitaire étaient prévues aujourd'hui en France. Des manifestations au moment où le cap symbolique des 50 millions de personnes vaccinées avec au moins une première dose a été atteint. La crise des sous-marins et la colère froide de la France qui choisit la crise diplomatique pour dire son mécontentement aux Australiens et aux Américains. Paris a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultation après l'annulation par Canberra du contrat du siècle qui prévoyait l'achat de 12 sous-marins à la France. Les États-Unis fourniront à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire. Le rappel d'ambassadeurs est un geste très fort en diplomatie, même s'il est symbolique, mais il permet de formaliser le sentiment de trahison éprouvé par Paris. Et ce matin, avant de prendre l'avion pour Paris, l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, a dénoncé le double jeu du gouvernement australien. Sur place, Grégory Pless.
Nommé il y a moins d'un an à Canberra, Jean-Pierre Thébault, l'ambassadeur de France en Australie, est déjà presque de retour à Paris. Dans une interview accordée à SBS French, une radio australienne en langue française, il dénonce la trahison des Australiens, avec qui il était question non seulement de vendre des sous-marins, mais aussi de partager, je cite, « des secrets industriels liés à notre sécurité nationale ». Il précise par ailleurs avoir appris la nouvelle jeudi dans la presse, où il a lu également que les Australiens mijotaient leur coup depuis 18 mois. Un manque de franchise qu'il qualifie de lamentable. Au cours de ses 30 années de carrière de diplomate, il affirme qu'une crise de cette nature, qui n'a jamais fait l'objet de la moindre discussion de bonne foi, c'est pour lui totalement inédit. À Paris, avec les membres du gouvernement, c'est toute la relation franco-australienne qui va être remise à plat. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
La mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'âge de 84 ans. Abdelaziz Bouteflika sera resté 20 ans à la tête de l'Algérie. Jamais un président algérien n'aura régné aussi longtemps. Abdelaziz Bouteflika avait renoncé au pouvoir en 2019 sous la pression de l'armée et de la rue. Après des semaines de manifestations massives, l'annonce de la mort de l'ancien président a provoqué peu de réactions de la part des autorités et sur les radios et les télés, pas d'émission spéciale, programme d'un week-end normal en Algérie. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir Frédéric.
Se pose maintenant la question des obsèques d'Abdelaziz Bouteflika qui place les autorités algériennes dans l'embarras.
Oui, même dans la mort, il est un casse-tête pour l'Algérie officielle qui aimerait que l'on tourne la page très vite. Son successeur, le président Tebboune, construit son pouvoir justement sur le rejet de l'ère Bouteflika et redit régulièrement son admiration pour ce qu'il appelle le Irak béni, le mouvement populaire qui a mis le vieux président à la retraite forcée. Difficile donc pour lui d'honorer son prédécesseur avec des cérémonies fastueuses et en même temps, les autorités algériennes ne peuvent pas non plus maltraiter le président défunt au moment de ses funérailles. Il reste un personnage historique, l'un des fondateurs de l'Algérie indépendante. Avant lui, Boumediene, Ben Bella ont eu droit à un hommage national. Alors, face à ce dilemme, le pouvoir algérien a donc décidé de faire le service minimal. Les drapeaux seront symboliquement mis en berne pendant 3 jours. Le président Bouteflika sera inhumé demain à 11h au carré des martyrs du cimetière d'El Alia où reposent ses prédécesseurs. Quant aux Algériens, me disait un journaliste joint par téléphone à Alger, c'est l'indifférence générale pour eux. Bouteflika, c'est déjà de l'histoire ancienne.
Christian Chéneau, merci. Et puis en Afghanistan, premiers attentats meurtriers dans le pays depuis le départ des Américains et sous régime taliban. Au moins 2 personnes ont été tuées et 19 autres blessées à Jalalabad. 3 explosions ont eu lieu. Une attaque a visé une voiture de police des talibans à l'étranger encore. Une situation dramatique et un appel à l'aide. Plus de 10 000 migrants dont une majorité d'Haïtiens campent sous un pont à la frontière sud des États-Unis. Ces migrants sont arrivés à Del Rio, Texas, en traversant le fleuve Rio Grande. Débordés, les gardes-frontières américains ont placé les migrants à l'ombre du pont pour empêcher les maladies liées à la chaleur. Mais la petite ville de Del Rio n'est pas préparée à la venue d'autant de migrants. Sur place, Thomas Arms.
Devant la station d'essence qui fait office d'arrêt d'autocar, la majorité des gens qui attendent sont des Haïtiens. Et comme François Naomi, ils ont passé plusieurs jours sous le pont entre le Mexique et le Texas.
C'est des ponts. Beaucoup d'immigrants, beaucoup Haïtiens, Vénézuéliens, on dirait beaucoup Africains, beaucoup.
Leur ticket en main, ils sont des dizaines à attendre au soleil l'arrivée du bus. Et des habitants de Del Rio, comme Grace Yam, leur viennent en aide.
On a appris ça aux nouvelles. Je suis sûre qu'ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont rien. C'est tellement triste. Donc on est allé au Walmart et on a acheté de la nourriture pour bébés et des lingettes.
Une petite coalition d'organisations leur apporte leur soutien, mais Del Rio n'a pas les infrastructures des autres grandes villes frontalières. Et le maire, Bruno Lozano, un peu dépassé, a déclaré l'état d'urgence.
Je ne pensais pas vivre quelque chose de cette ampleur. Il y a des parents avec leurs bébés là-bas, des gens tombent, inconscients, à cause de la chaleur. Il fait 37 degrés, c'est vraiment difficile à décrire avec des mots, mais c'est très chaotique.
Le maire démocrate de la ville a demandé de l'aide de l'administration Biden. Près de 8000 migrants sont attendus sous le pont de Del Rio dans les prochains jours. Del Rio, Thomas Arms, France Inter.
France Inter, Frédéric Barrère.
Sans surprise, Olivier Faure, officiellement réélu premier secrétaire du Parti Socialiste lors du 79e congrès du PS, aujourd'hui à Villeurbanne. Et réélection en prélude à l'investiture socialiste pour la présidentielle d'Anne Hidalgo. Mais malgré sa réélection, Olivier Faure est critiqué dans sa gestion par quelques membres du PS, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, ou encore François Rebsamen. Le maire de Dijon dénonce un rétrécissement du PS devenu, selon lui, un parti sectaire. François Rebsamen avec David Debat.
ce parti, le Parti Socialiste, est en train de perdre sa substance démocratique. Pendant 4 ans, les militants n'ont été associés à rien. Un parti qui ne consulte pas ses militants, ses adhérents, c'est un parti qui perd sa substance. Le débat est fait partie du Parti Socialiste. Il est l'histoire du Parti Socialiste. Alors, il n'y a plus débat, il n'y a plus d'échange. C'est un parti qui se replie sur lui-même, qui se rétrécit, qui devient sectaire. Parce qu'ils n'osent plus dire la vérité. Quand il y a des choses bien, il faut les dire. Quand il y a des choses qui ne correspondent pas à notre idéal, il faut aussi les dénoncer. Et cette manière de faire, ce comportement qui est républicain et démocratique, eh bien, il n'existe plus aujourd'hui à l'intérieur du Parti Socialiste, que je regrette.
François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon. L'objectif sera tenu. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame se fera d'ici 2024, confirme Christophe Rousselot, le directeur général de la Fondation Notre-Dame. Ce matin, Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge du chantier, avait annoncé que Notre-Dame, l'un des monuments auxquels les Français sont le plus attachés, était officiellement sauvé et sécurisé et que plus de 2 ans après l'incendie, la phase de restauration allait débuter. Une annonce à l'occasion des 38e journée du patrimoine, des journées au menu copieux après une édition 2020 réduite. Cette année, le programme et le choix des lieux à découvrir est très riche. Exemple, en Bretagne, à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, la ville a décidé de mettre à l'honneur l'orgue de l'église Saint-Jean. L'instrument date du 18e siècle. Il sera démonté lundi pour restauration. Joanne Moison, France Bleu Armorique.
C'est la dernière occasion ce week-end d'entendre cet orgue remarquable, de le visiter aussi, car il faut emprunter un petit escalier étroit en colimaçon pour découvrir ces 2 claviers avec ces touches en chêne plaquées d'ivoire et en ébène, les 1400 tuyaux. Philippe Maignan, l'organiste, se souvient très bien de la première fois où il a vu cet instrument.
J'ai ressenti une émotion absolument incroyable, mais vraiment. Oui, on monte. L'instrument est ancien. Vous vous rendez compte, il est de 1777.
Il n'est pas tout jeune, oui. Il a besoin d'un petit coup de jeune. Bon, il en a déjà eu.
Le dernier remonte à 45 ans. Ouais. Il y a des choses au niveau de la mécanique, puisque la mécanique est absolument énorme. C'est incroyable tout ce qui part dans tous les sens. Il y a des champignons dans le bois, des fuites dans le soufflet, il y a de l'oxydation dans les tuyaux. Il y a un tuyau qui est tombé il y a 4-5 ans, un tuyau de façade qui est tombé. Ouais. Un énorme tuyau est tombé en pleine nuit. Il n'est pas tombé sur quelqu'un, mais on l'a vu par terre. Puis il va y avoir des améliorations, on va rajouter des petits soufflets supplémentaires pour lui donner plus de puissance.
L'orgue va donc être démonté pièce par pièce à partir de lundi. C'est un facteur d'orgue de Pau qui va le restaurer. Coût de l'opération, 200 000 euros. La ville de Lamballe lance à partir d'aujourd'hui une souscription, un appel aux dons avec la Fondation du patrimoine pour la restauration de l'instrument.
Joanne Moison de France Bleu Armorique. Du football avec la 6e journée de Ligue 1 et l'affiche de l'après-midi, c'est le derby du Nord. Lens reçoit Lille et Lens n'a gagné aucun de ses 12 derniers matchs de Ligue 1 contre Lille. Le match n'est pas terminé, il a même été arrêté quelques minutes. Plusieurs supporters de Lens ont pénétré sur le terrain. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Frédéric.
Des incidents qui interviennent quelques semaines seulement après de mêmes incidents entre Nice et Marseille, on s'en souvient.
Oui, et là l'interruption du match a eu lieu à la mi-temps quand effectivement une centaine de supporters lensois, dont des ultras, ont traversé le terrain en direction de la tribune visiteur. Des jets de projectiles, un début d'échauffouré entre ultras lillois et supporters lensois, des stadiers rapidement débordés. On a vu des sièges être lancés des deux côtés des grilles qui séparent les supporters. Il a fallu l'intervention des CRS pour reprendre le contrôle de la situation. 2 blessés ont dû être évacués, 1 personne interpellée. Après 40 minutes d'interruption, le match a repris avec des dizaines de CRS dans le stade au pied des 2 tribunes concernées. Imaginez le score à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, à la 88e minute de jeu, et de 1-0 pour le Racing Club de Lens qui a ouvert donc la marque par son ailier Frankowski sur une jolie frappe du droit. Pas de nouveaux incidents à déplorer pour le moment.
Alexandre Vaux en direct du stade Bollaert à Lens, et donc à 3 minutes de la fin, 1-0 pour Lens, nous dit Alexandre Vaux. Le temps pour demain dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
La perturbation pluvio-orageuse arrivée ce matin par l'océan va finir par faire la jonction avec les régions de l'Est en cours de nuit prochaine. Elle sera suivie demain d'un ciel chaotique sur une très grande partie du pays, n'épargnant que les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Et dans la partie sud, des régions méditerranéennes, mais avec un mistral, une tramontane et des rafales d'ouest sur la Corse, très turbulent. Sur le reste du pays, le ciel lourd va donner de fréquents passages d'averses avec des quantités de précipitations jusqu'à 40 litres au mètre carré en l'espace de 24 heures, notamment sur un axe Normandie-Bourgogne-Franche-Comté-Rhône-Alpes-Centre-Val-de-Loire, avec de la neige à partir de 2200 mètres sur les Alpes du Nord, le tout dans des températures en léger recul par rapport à aujourd'hui près des frontières de l'Est et quasi stationnaires sur les autres régions.